le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est libre pour la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
Hola, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Canu et du Canu Info de ce jeudi 8 décembre 2022. Il fait froid, vous aurez remarqué. Hein, nous avons évidemment encore une fois une pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont à la rue et à tous ces enfants qui sont hébergés dans des écoles avec leurs familles faute d'avoir un logement. Voilà, avec les gouvernements successifs, bah, y a toujours des gens à la rue quoi qu'il arrive. Il y a eu ces derniers temps plein d'articles sur... c'est où sont les pauvres? Pas dans la rue, entre autres. Et puis aussi dans la voiture, et puis dans des logements insalubres. Voilà, les pauvres, on en parle beaucoup. On découvre d'un seul coup les pauvres en France, avec cette inflation, avec le prix de la baguette. Ça fait causer hein, dans les médias. Bon, les pauvres, il y en a toujours eu. Malheureusement, il y en aura encore demain. Et puis, une fois qu'on aura fini d'en parler avec l'inflation et le prix de la baguette de pain, et ben, on passera à autre chose et... peut-être à la Coupe du Monde, allez savoir. En tout cas, il se passe plein de trucs dans le monde et en France. Ce soir, nous allons parler des barbares et donc de la peine de mort avec Laurent. Nous irons du côté du Pérou, nous parlerons du droit à l'avortement avec l'Irlande du Nord, nous parlerons de prisonniers et de prisonnières, nous parlerons de ni Dieu ni maître, et puis nous aurons un petit peu d'extrême droite, et puis nous verrons ensuite. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Madame Borne, hein, notre ministre à nous, première, évidemment, ministre, a donc décidé de sortir son 8e 49-3. Alors, bon, le record hein, de M. Rocard est largement loin. Par contre, ça y est, elle a dépassé, il me semble que c'est Mme Cresson et M. Barre. Enfin, Cresson et Barre. Enfin, Mme Cresson, toujours vivante, et Barre. Qui avait même sorti 8 fois ce 49-3. Donc, Mme Borne semble quand même dans un bel élan hein, d'unité avec elle-même et son gouvernement. Bon... Bah voilà, hein, tout ça évidemment est assez attendu de la part de ce gouvernement de Monsieur Macron, mais en même temps, on apprend que Monsieur Bernard Arnault et sa famille s'est retrouvé à la tête de la plus grosse fortune du monde entier, Cocorico.
Pendant pas longtemps, parce qu'il paraît que ça va rebouger.
Ouais, alors ça a déjà bougé. Vous savez, le magazine Forbes fait en fait un classement en temps réel. C'est comme la bourse. Et donc, c'est Monsieur Musk, hein, Elon Musk, donc ce patron de.
Qui est repassé devant.
De Tesla, SpaceX, Twitter et tout ça, qui est repassé devant, mais en fait il était déjà devant. Mais en fait, dans ce classement, vraiment c'est émouvant. Hein. Monsieur Arnault a pu profiter de la baisse de l'action de Tesla, qui a donc tout ça d'une manière magique. On secoue nos petits doigts et on fait de la magie, fait baisser la fortune de Monsieur Musk, ce qui a permis à Monsieur Arnault et sa famille de passer en tête et recocorico. Oh là là, qu'est-ce qu'on est fiers dans les médias. Bon, en fait, tout ça pour dire qu'il y en a quand même qui ont grave du pognon, même si parfois c'est de l'argent magique. Hein, voilà. N'empêche qu'ils ont quand même du vrai argent aussi dans leur poche et sur leur compte en banque. En tout cas. toujours plus que nous. Donc il y a toujours ces inégalités qui font que il y a des gens qui décident à la place des autres. Monsieur Musk a décidé, j'ai appris ça aujourd'hui, d'installer des lits, des dortoirs à toute heure pour que les gens travaillent plus, soient plus motivés. Comment dire,
voilà. À la chinoise.
Ouais, exactement. Non, mais il a des grandes idées quand même. On a quand même plein de gens qui ont du pognon dans le monde, et en particulier en France. Il n'y a pas que les ultra-riches, il y a aussi des riches. Et avant que tu attaques, parce que parfois après l'agenda on l'oublie, je voudrais juste dire que mardi prochain, nous serons le 13 décembre, il y aura une soirée de soutien à l'Amicale du Futur, une soirée de soutien contre le Lyon-Turin, vous savez, le No-TAV. Il y a toujours des gens qui se battent contre ce projet. Il y a des projets inutiles de partout.
Même dans les trains.
En Europe et dans le monde. Et vous pouvez retrouver une petite histoire. Je vais en parler plusieurs fois dans cette émission. Du dernier numéro de la revue, vous savez que j'aime beaucoup, si vous nous écoutez fréquemment, de cette revue 6 mois, revue qui sort peu. Est toujours aussi magnifique, belle revue bien épaisse consacrée donc au photojournalisme. Et donc il y a toute une série de photos sur ce qui se passe dans une ZAD en Allemagne, et donc ça nous rappelle aussi quelques autres projets inutiles contre lesquels se battent des militants et des militantes un petit peu de partout en Europe.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Voilà, donc on a introduit cette petite rubrique sur les barbares qui pratiquent encore la peine de mort. On commence par l'Afghanistan, puisque pour la première fois depuis le retour des religieux talibans au pouvoir en Afghanistan, ils ont assassiné, c'est-à-dire exécuté publiquement, c'était hier, un homme condamné pour meurtre. Quelques semaines seulement après l'injonction du chef suprême religieux des talibans, qui demandait d'appliquer la loi islamique jusque dans les aspects les plus brutaux. Donc le condamné avait été accusé en 2017 d'avoir tué quelqu'un et d'avoir volé une moto et un téléphone portable. Ça, c'est la version officielle des talibans, on n'en sait pas plus, c'est peut-être vrai, peut-être pas vrai, on s'en fout d'ailleurs, puisque on rappelle que la condamnation de la peine de mort fonctionne quel que soit le crime commis par la personne. Donc la sentence, alors le pire, c'est rock'n'roll quand même, entre guillemets, l'Afghanistan et les religieux talibans, puisque la sentence a été exécuté par le père de la victime qu'il a tué à la Kalachnikov. Vous imaginez la scène là, votre père, votre mère rentre, enfin vous êtes dehors et vient vous assassiner parce que vous avez été condamné à mort. C'est assez apocalyptique. Alors, sous le premier régime des talibans, entre 96 et 2001, les condamnés étaient alors souvent tués par balles et aussi lapidés, parce que c'est un peu plus sympa, les gens mettent plus de temps à mourir et on en profite beaucoup plus quand on est un imbécile taliban et leur soutien, hein, bien évidemment. Donc là, le condamné à mort avait été reconnu, donc reconnu coupable. Il aurait eu droit à tous les procès normaux en première instance, en cour d'appel, en cour suprême. Enfin voilà, c'est la propagande du chef suprême là qui s'appelle Hibatullah Akhundzada, donc le chef suprême de ces religieux talibans. Et voilà, donc lui il a redit, il faut appliquer tous les aspects de la loi islamique, les exécutions publiques, les lapidations, les flagellations et l'amputation des membres pour les voleurs. On sent le haut niveau de développement chez ces gens-là. Donc voilà, c'était une triste nouvelle quand même. Alors, il faut quand même comprendre les enjeux. D'après ce qui sort, alors il sort pas grand-chose quand même de l'Afghanistan, mais il y aurait des soucis au sein même des talibans, des luttes de pouvoir. Parce que forcément, t'as un chef suprême, t'as envie d'être chef suprême du chef suprême. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des gens qui sont pas d'accord avec certains aspects idéologiques au sein des talibans. Je parle pas de le reste de la population, au sein des talibans, et que ce qui serait à l'origine du durcissement du ton Hibatullah Akhundzada, c'est histoire de calmer sa base en fait idéologique au sein des talibans, en disant regardez, j'applique la charia jusqu'au bout, jusqu'au truc le plus sanglant. Alors, il y a peut-être de ça derrière. Hein. C'est le premier assassiné par les talibans en tant que chef de gouvernement. Mais il y a eu déjà des flagellations publiques en août l'année dernière, par exemple. Donc voilà. Alors, il y a eu des réactions. L'ONU, à travers le secrétaire général Antonio Guterres a dit qu'il condamnait la peine de mort, que la position de l'ONU était de combattre la peine de mort. Ça ne changera bien évidemment rien, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur les talibans. Alors, on reste dans les régimes religieux dictatoriaux, et on va en Iran, parce que là aussi, mauvaise nouvelle, puisque l'Iran a assassiné un opposant, on sait que c'est lié à la contestation actuelle, hein, puisque la contestation est très importante en Iran aujourd'hui. Et ce jeudi 8, ils ont tué un premier manifestant qui avait été condamné à mort. Alors il aurait blessé un paramilitaire au couteau. Enfin bon, après toutes les excuses peuvent sortir. Ils ont récupéré des pro. Alors il y a des journaux qui en parlent. Il y a aussi l'agence de presse Tasnim qui est affiliée aux Gardiens de la Révolution, hein, les révolutionnaires religieux. Iraniens qui ont même donné le nom, il s'appellerait Mohsen Shekari. Donc voilà, il aurait été arrêté dans les manifestations dans un quartier de Téhéran, à Satarkhan, et il a été donc condamné à mort par un tribunal religieux dit révolutionnaire, pour avoir agressé quelqu'un et surtout avoir aussi bloqué la circulation, enfin bon bref, pour s'être opposé au pouvoir, avoir participé à ce soulèvement. Alors on sait qu'il y a plus de 15 000 personnes qui sont dans les geôles iraniennes actuellement. Il y en a pas mal qui sont accusés de ce qu'ils appellent la guerre contre Dieu, la Moharaba, et de Fezad Fel Haz. Alors je parle très mal l'iranien, le persan, enfin, voire pas du tout, hein. Donc je fais comme je peux, et ça veut dire corruption sur terre, et c'est deux crimes qui peuvent couvrir tout et n'importe quoi, donc c'est pratique, et c'est deux crimes qui sont passibles de la peine de mort. Donc c'est aussi pratique pour les religieux, les gardiens de la révolution, de brandir ces deux excuses pour faire condamner leurs ennemis, leurs opposants. Il y a un enregistrement audio qui devait rester secret des gardiens de la révolution, qui a été hacké par des militants et qui est sorti. Et le message dit qu'ils discutaient des 80 personnes qu'ils espéraient qu'on pouvoir condamner à mort. C'est une discussion entre gardiens de la révolution, donc il n'y a pas des condamnations officielles, puisque pour l'instant elles sont de 11. Donc il y en a d'après eux 80 qui pourraient être exécutés, histoire d'essayer de calmer le jeu. Parce qu'on se rappelle que la contestation qui est née suite à la mort d'une jeune femme tuée par la police des mœurs, il y a eu des mobilisations, et puis là on sort de 3 jours de grève générale. Une grève générale qui a été a priori largement suivie dans pas mal de villes, au moins 50 en Iran. Il y a eu une grosse mobilisation aussi dans les campus universitaires, il y a eu des rassemblements nocturnes dans la capitale Téhéran. Enfin voilà, la mobilisation faiblit pas, malgré la pseudo-annonce qu'ils auraient supprimé la police des mœurs, ce qui est finalement pas si vrai que ça, enfin, etc. Donc le pouvoir dictatorial religieux est coincé et est rentré dans une surenchère, enfin est rentré, a toujours été dans une surenchère répressive, hein, c'est pas des démocrates, hein. On a un premier condamné à mort pour cette raison-là. De toute façon, il y a au moins 458 morts, dont 63 mineurs, hein, dans les manifestations en Iran. On continue sur la peine de mort, les autres infos vont être plus courtes. La Birmanie, qui s'appelle officiellement, je vous rappelle, le Myanmar, a condamné à mort 7 étudiants. C'est pareil, hein, 7 étudiants, parce qu'ils s'opposaient au régime dictatorial installé depuis un peu plus d'un an dans ce pays qu'est la Birmanie. Et puis en Algérie, alors là ça a été une sorte de procès un peu énorme, c'est suite à un truc horrible, hein, au lynchage en Kabylie d'un homme qui s'appelle Jamel Ben Smaïl, qui avait été accusé à tort d'avoir mis le feu, et il y a eu un lynchage public, enfin, ça a été assez apocalyptique, et l'État algérien a condamné 49 personnes à mort. C'est un truc de fou. Alors, l'Algérie a la peine de mort hein, dans la législation, mais ils ont exécuté personne depuis 1993. Donc, on avait l'impression d'être sur un moratoire. Là, avec ces 49 condamnés, il y a quelques jours, ça laisse entendre qu'ils vont reprendre les exécutions. C'est vraiment pas un bon signe. Et puis, pour terminer sur nos amis ou nos ennemis, les barbares qui pratiquent la peine de mort. Il n'y a pas que des dictatures, hein, contrairement à ce que disait en jingle Badinter à l'époque. Il y a aussi des démocraties représentatives. Il n'y en a pas beaucoup, des démocraties représentatives qui pratiquent la peine de mort. On pense au Japon. Et la deuxième, c'est les États-Unis d'Amérique. On a parlé dans une dernière rubrique, il y a un mois à peu près, sur la peine de mort. Et là, c'est en Alabama, on en avait parlé, c'est Kenneth Eugene Smith qui devait être exécuté le 17 novembre dernier. Ils avaient repoussé assez tard l'exécution parce qu'ils attendaient il y avait un dernier recours en cours, et ils attendaient donc le dernier recours judiciaire qui dit « vous pouvez tuer ce personnage ». Et ils ont essayé et ils ont suspendu l'exécution parce qu'ils sont pas arrivés. En fait, il y a un temps entre la première injection en intraveineuse et la deuxième. Et en fait, ils arrivent, vraisemblablement, ils ont eu du mal à trouver la veine, tout ça, et ils ont été obligés d'arrêter. Ils l'ont pas exécuté. Donc, il est toujours en attente d'exécution, ce Kenneth Eugene Smith. Voilà, c'est bizarre, hein, les États-Unis d'Amérique sur les exécutions. C'est quand même souvent assez glauque. Un peu moins glauque que ce qui peut se passer chez les talibans où tu demandes à la famille d'aller tuer le condamné à mort.
Alors on va partir au Pérou et on va parler de l'actualité politique, un pays qui est une nouvelle fois bouleversé par son actualité présidentielle. C'est donc son président Pedro Castillo, qui n'aura dirigé le pays que 17 mois, qui se trouve aujourd'hui, ce jeudi 8 décembre, en détention au lendemain de sa destitution et de son arrestation. C'est la vice-présidente Dina Boluarte qui a été investie à la présidence.
Du coup, je crois que c'est la première fois qu'il y a une femme la tête du pays.
Voilà. Elle est issue du même parti, hein, Pérou Libre, que Pedro Castillo. C'est un parti de gauche d'inspiration marxiste, si vous l'aviez oublié, je vous le rappelle. Alors, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, et d'après les médias au Pérou, Pedro Castillo a été transféré vers une base des forces spéciales de la police à Lima. Il a été détenu pour une durée, pour l'instant, maximale de 15 jours. Il y a eu des perquisitions au palais présidentiel. Il y a une enquête qui est ouverte pour rébellion.
Il a fait une sorte de coup d'État.
Alors, il y a une enquête pour rébellion, effectivement, tu as raison. Hein. Qui a été ouverte contre Pedro Castillo. Elle vient s'ajouter aux 6 autres enquêtes pour corruption, trafic d'influence qui le visent. Lui et des membres de sa famille et de son entourage politique. Donc, c'est quand même une sacrée affaire. Sa destitution, elle est provoquée pour incapacité morale. Tout ça a été retransmis en direct à la télévision. Ça a été une destitution qui a été approuvée par 101 des 130 parlementaires, dont 80 dans l'opposition. Donc tout ça, on a vu les images. On a vu donc Pedro Castillo assis, entouré de policiers, de représentants de la justice. Alors il faut dire que Pedro Castillo, il a échappé à 2 motions de destitution depuis le début. Alors, 17 mois, c'est quand même pas mal, quand même. Donc il aura fallu une troisième pour le faire tomber. Il lui est reproché des crises ministérielles à répétition. Il y a eu 4 gouvernements en 8 mois. Enfin, c'est vrai que c'est un gouvernement très compliqué, hein, cette arrivée de Pedro Castillo. Et puis, alors il faut dire qu'il y a déjà eu des procédures de destitution. Elles avaient touché en 2018 un président de droite, et puis en 2020 un autre président qui est plutôt censé être de centre. Bon, nous on dit plutôt toujours un peu à droite, mais bon voilà.
Centre droit, quoi.
Ouais, nous on dit toujours de droite de toute façon. Mais enfin voilà, il est plutôt présenté effectivement comme étant moins à droite que Pedro Pablo Kuczynski, Martin Vizcarra. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Pedro Castillo, il a tenté un truc de dingue, c'est qu'il a annoncé la dissolution du Parlement alors que ce Parlement tentait de le destituer. Et c'est là où effectivement ce terme de coup d'État est
institutionnel, quoi.
Ouais, est arrivé effectivement dans la bouche de ses opposants et d'un certain nombre de personnalités au Pérou, d'observateurs et de journalistes. Il avait aussi annoncé la mise en place d'un gouvernement d'urgence exceptionnel et il voulait convoquer un nouveau congrès doté de pouvoirs constituants. Tout ça a fait que c'est ça qui représente le coup d'État pour la classe politique péruvienne. C'est une manœuvre un peu particulière hein, quand même. Et puis on a appris par la police et par les médias au Pérou que Pedro Castillo avait décidé de se barrer à l'ambassade du Mexique et de demander l'asile. Donc il a été arrêté juste avant de pouvoir se sauver. Alors, sa remplaçante, Dina Boluarte, elle a dit hein, au moment de la cérémonie d'investiture devant le Parlement qu'il s'agissait pour elle et pour d'autres d'une tentative de coup d'État promue par Pedro Castillo.
Alors qu'elle est du même parti que lui. Hein.
Ouais, non. Et que, heureusement, il n'y avait pas eu de répercussions dans les institutions et que la démocratie avait résisté et que la rue s'était pas emparée de cette idée de Pedro Castillo. Alors, elle a déclaré être au pouvoir jusque fin juillet 2026, c'était la fin hein, du mandat de Pedro Castillo. En termes de réaction, on n'a pas vu des mouvements de colère hein, dans les rues de péruviennes. On a plutôt, a priori, l'impression que les électeurs, les électrices sont donc carrément
ras-le-bol. Désespérés.
Ouais, c'est un peu, il y a un grand désespoir qui est plutôt en place face à ce qui est en train de se passer. Et mais il y avait aussi des partisans hein, de Pedro Castillo qui étaient là en disant mince, il a été élu. Tout ça est quand même assez compliqué. Donc bon, on sent qu'il y a une population un peu désespérée. Du côté des commentaires internationaux, ben on a les voisins comme les États-Unis d'Amérique qui ont tout de suite fait savoir que Pedro Castillo n'était plus considéré comme président du Pérou. Ça, c'était net. Et puis, du côté du Brésil, on a Lula qui doit être bien embêté parce que c'est un ami
c'était
de gauche.
C'est son copain, ouais.
Alors, c'est son copain. En tout cas, c'est.
Son copain de gauche, ouais.
C'est, je sais pas si c'est son copain, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un président de gauche. Que Lula a dit que c'était quand même dommage qu'un président démocratiquement élu subisse un tel sort. Mais qu'en tout cas, il y avait un cadre constitutionnel, je le cite, qui a été respecté et que c'était ça l'important. Alors, il faut revenir quand même un petit peu sur. D'autres détails. Pedro Castillo, c'est effectivement un homme de gauche. Il a été instituteur pendant 24 ans, plutôt en zone rurale. Donc, c'est pas un homme issu du sérail politique. C'est pas un politicien professionnel, pour le dire autrement. Mais c'est vrai que pour un certain nombre d'observateurs, c'est pas forcément une surprise. Il avait tout fait pour se retrouver arrêté, atterré, destitué. Et puis il y avait quand même des gens qui voulaient effectivement le destituer. Cette troisième demande de destitution, elle a marché parce qu'il y a eu une unité contre lui avec l'opposition et que du coup c'est comme ça qu'il est tombé. C'est parce que il y a eu cette unité. Mais il y a eu aussi une difficulté, c'est qu'il a été élu avec très peu de voix, 12% des voix, et qu'en fait d'autres partis politiques étaient assez proches. Donc il a été élu avec pas grand chose. Et c'est pour ça que l'une de ses rivales d'extrême droite, Keiko Fujimori, elle n'avait pas reconnu le scrutin, mais parce qu'elle n'était pas si loin ce résultat. Donc finalement, le problème hein, qu'on a, mais qu'on connaît aussi dans d'autres pays, hein, aussi ce qui se passe peut-être avec M. Macron, c'est que c'est des gens qui sont élus assez pauvrement et avec une base très faible, et qui, surtout, une base qui n'avait pas permis à Pedro Castillo d'avoir une majorité dans les parlements du pays et donc de pouvoir gouverner sereinement. Donc il n'y a pas eu de soutien politique sur ce qu'il avait envie de faire. Et puis c'est vrai que là, aller annoncer un nouveau gouvernement d'exception, une justice réorganisée, tout ça, ça l'a fait sauter parce que d'un seul coup, il passait pour un autoritaire de gauche marxiste. C'était pas très chouette et que c'est aussi pour ça qu'il est destitué et que ça que l'opposition a fonctionné contre lui. Comme je vous le disais, il y a quand même 6 enquêtes pour corruption et trafic d'influence. En fait, c'est un peu comme si, d'un seul coup, même ceux et celles qui étaient du bas, bah, arrivaient quand même, une fois au pouvoir, à trahir le peuple, et puis finalement à voler l'argent du peuple, finalement, à détourner, et à être corrompu. C'est un peu ce que semble représenter Pedro Castillo à l'heure actuelle.
C'est pas le seul dans les dirigeants de gauche d'Amérique du Sud.
Non, mais de droite, de gauche, d'une manière générale, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et pour le Pérou, c'est une nouvelle problématique, hein, parce que là, ça veut dire qu'il y a une instabilité politique qui est encore en place. Et que depuis le début des années 2000, ben, il n'y a pas de stabilité au Pérou et que ça devient extrêmement compliqué. Alors, on a maintenant une nouvelle présidente qui n'a toujours pas de majorité. Ça, il faut s'en rendre compte, qui n'a de soutien de personne, et que on est en train de dire un petit peu dans les médias au Pérou qu'elle va certainement pas terminer son mandat en 2026, qu'elle va devoir très certainement peut-être partir avant parce qu'elle a un parlement qui lui est pas favorable, qu'elle n'a pas d'alliés et que elle va se retrouver bien seule pour essayer de rétablir une cohésion dans la politique péruvienne et puis de rassembler un peu comme on aime bien dans les politiques de dire on va rassembler, ça semble tout ça très compliqué. Donc soit il va y avoir une nouvelle tentative de destitution sur cette présidente, soit il va y avoir, elle va devoir démissionner, partir d'elle-même, et il y aura des nouvelles élections. L'idée, ça serait qu'il y ait une destitution pour que ça soit le président de l'Assemblée qui prenne sa place, parce que lui, il est du côté de l'opposition, qui pourrait y avoir une majorité. C'est un peu à ça que jouent en fait aujourd'hui les politiques au Pérou. C'est un sacré bazar.
Oui, on n'a rien à leur envier. Hein. Nous, on a des. Alors, nous, ça s'appelle pas des destitutions, mais on a des motions de censure qui sont posées pour faire sauter le gouvernement tous les deux jours.
Oui, mais enfin, hein, donc, on a quand même une stabilité en France qui est quand
même. Un peu plus importante. Oui, mais par le système lui-même, pas par la volonté
et
des
puis,
électeurs.
C'est vrai
des
que quand tu gagnes une élection présidentielle à coup de 12%, c'est quand même pas top.
Oui.
Voilà.
Poursuivons et allons en Irlande du Nord. Vous savez, la partie de l'île irlandaise occupée par les Anglais. Mais. C'est une bonne nouvelle malgré cette occupation qui dure toujours. Et il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles. Et c'est une bonne nouvelle sur le droit à l'avortement. En fait, c'est la plus haute juridiction britannique qui avait été appelée au secours quelque part et qui a unanimement autorisé hier l'instauration de zones tampons autour de cliniques qui pratiquent le droit à l'avortement en Irlande du Nord. Les juges ont estimé que le projet de loi examiné par les législateurs ne portait pas atteinte à la liberté d'expression telle que garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors c'est le Irish Times, le journal qui nous en parle. Alors en fait, c'est quoi ? C'est qu'un projet de loi qui a été adopté en mars dernier à l'Assemblée d'Irlande du Nord. Vous savez, il y a une assemblée qui est d'ailleurs dirigée par le Sinn Féin, qui sont plutôt qui voudraient faire un avec le reste de l'Irlande. Il prévoyait un ensemble de mesures pour empêcher les militants anti-IVG de manifester à moins de 100 mètres des centres hospitaliers ou des cliniques qui pratiquent l'avortement. Parce qu'ils viennent perturber, ils font peur, ils intimident les femmes qui veulent aller avorter. Donc ils ont fait cette loi qui est une belle loi. Hein, c'est dommage d'en arriver là, mais c'était le but étant de protéger les femmes qui veulent aller avorter. Le procureur général d'Irlande du Nord, lui, il n'était pas de cet avis, lui, il doit être de l'autre camp. Et il a dit, non, ça, moi je trouve que ça porte atteinte à la liberté de conscience, d'expression et d'assemblée des militants anti-avortement. Mais ils ont le droit d'aller s'assembler ailleurs, hein, c'est tout. Alors, c'est lui donc qui avait, entre autres, sollicité la plus haute juridiction britannique. Mais la Cour suprême britannique a dit, non, ça répond à un objectif légitime de santé publique. Donc ils ont le droit de s'exprimer, mais plus loin, il faut laisser les femmes d'Irlande du Nord qui veulent accéder au service d'avortement d'y accéder. Lui, il explique, c'est un dispositif légal, le droit à l'avortement. On va pas donc autoriser une minorité politique à affaiblir le droit à l'avortement au nom de la liberté d'expression, de conscience et d'assemblée. Parce que pour lui, il continue, il dit, ça reviendrait à priver les femmes de droit à l'avortement qui est garanti par la loi. Donc c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose qui peut avoir des répercussions puisque en Écosse, j'allais dire autre pays occupé, c'est moins occupé hein, que l'Irlande du Nord, l'Écosse, mais qui voudrait bien une partie des Écossais, des Écossaises être sortir de la Grande-Bretagne.
Retrouver une autonomie.
Voilà, retrouver une autonomie. Le Parlement en Écosse a le même projet de loi, parce qu'ils ont les mêmes emmerdes avec les anti-avortements, qui font peur, hein, qui insultent, qui montrent des images horribles, pour décourager les femmes qui ont envie ou qui veulent se faire avorter, surtout d'y aller. Et donc c'est une députée écossaise écolo qui est à l'origine du projet de loi et qui se réjouit. Ça veut dire que même si les opposants, qui sont religieux en général, veulent aller devant la plus haute juridiction britannique, ils savent déjà qu'ils vont perdre. Donc c'est une bonne nouvelle pour le droit à l'avortement en Irlande du Nord et sûrement en Écosse. C'est pas mal. Et il faut donner des bonnes nouvelles des fois.
Oui, je vous parlais de 6 mois, je vais y revenir. Hein,
de la revue 6 mois.
De la revue 6 mois, effectivement, c'est le numéro 24 qui donc est sorti. On y retrouve, comme toujours, donc, des thématiques. Et l'une des thématiques de ce numéro s'intéresse à l'Ukraine et donc en répercussion à la Russie, avec effectivement une série de photos de guerre qu'on va retrouver classiquement dans 6 mois, mais aussi dans un certain nombre d'expositions, qui rappellent aussi ces photos qui ont beaucoup tourné dans les médias, mais qui donnent un petit texte, un accompagnement. C'est très intéressant. Et puis on trouve un reportage. Alors je tiens à m'excuser, c'est que j'ai oublié la revue à ma maison, à moi, et que donc je fais tout ça de tête. Hein. On retrouve aussi un excellent reportage. Alors c'est le Monde, le journal, qui a mandaté un journaliste pour aller faire des photos sur ces céréales qui sont bloquées en Ukraine. Vous savez que la Russie a attaqué des ports ou les détient, et donc l'Ukraine, grenier de céréales de l'Europe et de l'Afrique, entre autres, se retrouve avec ses céréales entassées et ne sait plus quoi en faire d'ailleurs. À peur que ça pourrisse, ne sait plus si l'Ukraine doit aujourd'hui semer ou pas ces champs pour une nouvelle production. Est-ce que ce qui est déjà stocké va partir? Est-ce qu'il faut investir financièrement dans une nouvelle récolte en sachant pas s'il va y avoir des acheteurs de l'autre côté? Donc ces photos sont accompagnées de toutes ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est que le photographe s'est dit allez photographier des céréales dans un hangar, c'est pas facile, hein, d'autant plus que, alors déjà c'est pas facile au niveau de la photographie et de son esthétique, mais en plus ce photographe explique que c'était pas facile de trouver aussi des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui acceptent d'être filmés, parce que ces fermes et ces hangars peuvent être visés par les Russes et sont donc détruits, ces stocks de céréales. Donc il y a une enquête assez intéressante. Et puis on va trouver des photos plus anciennes, faites par un photojournalisme, entre autres de guerre, qui avait été, au moment où l'Ukraine a eu son indépendance et où les passeports soviétiques sont arrivés à terme, avait été recruté pour aller, entre autres, dans sa ville de naissance, faire les photos des personnes pour les nouveaux passeports ukrainiens. Donc c'est très intéressant, parce que lui, il a fait ses photos, mais il a joué aussi à un jeu caché. C'est qu'il a fait des photos couleurs à côté, hors champ. C'est-à-dire qu'il a pris les personnes et il a pris leur environnement à côté. Donc on voit le cadre blanc, hein, souvent c'est juste une toile tenue par deux personnes. Il était souvent accompagné par des assistantes sociales ou des femmes ou des hommes qui venaient en particulier chez les plus anciens pour refaire ces documents, et qui tiennent, hein, un bout de drap ou un bout de tissu ou un bout de papier pour que la photo soit prise pour les passeports. Alors lui, il raconte, mais enfin, tous ces vieux, ils n'ont même pas besoin de passeport. Mais il y avait quand même l'Ukraine, hein, qui décidait qu'il fallait refaire ses documents. Et puis, surtout, il se cache, hein, pour faire ses photos hors champ. Et il montre une Ukraine à cette époque, hein, c'était il y a 20 ans, qui n'est pas dans un bon état aussi. Hein, une certaine Ukraine qui, depuis, évidemment, avait aussi évolué, mais en particulier dans les villes, mais pas forcément dans sa ruralité, qui vivent avec pas grand-chose. Et ce reportage, je trouve, fait écho à un autre texte qu'on trouve dans 6 mois, qui est extrêmement intéressant. Un texte qui s'intéresse à ces soldats russes qu'on envoie donc chasser les nazis en Ukraine.
Qui les trouve pas.
Alors, il y a des choses très intéressantes dans toute cette interview. J'ai perdu encore une fois, excusez-moi, mais vous avez qu'à aller lire, hein, et puis demander vos bibliothèques d'acheter 6 mois pour que vous puissiez le lire à domicile, sans être obligé de l'acheter, mais achetez-le si vous avez des sous, hein, sinon c'est vachement bien. Et puis vous le prêtez, tout ça, en fait. Vous faites comme bien vous voulez. Donc, ces soldats, vous savez, on n'en a pas arrêté d'en parler, c'est souvent des gens qui viennent de régions pauvres, excentrées de Russie, à qui on a répété qu'il y avait donc des nazis. On a aujourd'hui les Ukrainiens ont réussi, l'armée ukrainienne a réussi à enregistrer des conversations que les soldats russes ont avec leur famille, passent par téléphone, et donc on a des extraits. Et on a des extraits qui sont révélateurs de aussi la mentalité de ces soldats russes qui sortent de nulle part, hein, en Ukraine, et qui viennent vraiment chasser les nazis et qui se retrouvent à rentrer dans des maisons où, par exemple, il y a un extrait, moi j'ai découvert ça, hein, où un soldat russe explique à sa famille qu'ils ont du Nutella, c'est-à-dire que c'est des riches, et c'est des riches nazis en plus. Et que donc c'est pour ça qu'il faut les combattre, et c'est pour ça qu'ils sont persuadés qu'il faut aller les convaincre. C'est que non seulement ils sont nazis, on n'a pas arrêté de leur répéter ça, et ça depuis déjà un petit moment dans les oppositions entre l'Ukraine et la Russie, et en plus de ça c'est des riches, donc il faut les combattre. Et donc il y a un certain nombre de comme ça de conversations enregistrées qui révèlent aussi ce que peuvent penser ces soldats.
Et donc
russes.
L'efficacité de la propagande poutinienne.
Exactement. Donc voilà, il y avait toute cette partie là. Donc pour continuer avec la Russie, j'ai cette info du jour. On a appris donc que cette basketteuse des États-Unis d'Amérique, Brittney Griner, avait été libérée, et plus exactement, elle a été libérée contre un autre prisonnier. Je vous rappelle qu'elle avait pris 9 ans de prison pour avoir eu une vapoteuse avec le liquide qui contenait de l'huile de cannabis dans ses bagages.
Ce qui était autorisé dans son pays et pas là-bas.
Alors elle est, oui, là d'où elle est, elle, aux États-Unis d'Amérique, elle a effectivement la possibilité de pouvoir traiter ses douleurs avec ce produit. Mais effectivement, elle avait ça dans ses bagages. Et je ne veux pas vous entendre dire, là, elle n'avait qu'à pas avoir ça dans ses bagages. Évidemment, on peut toujours dire ça, mais en tout cas, Britney...
Elle méritait pas d'aller en tôle.
Elle arrive. Ouais, Pierre, surtout que ça faisait surtout beaucoup d'années. Je vous rappelle que Britney, elle a la peau noire, ce qui en Russie peut être considéré comme un désagrément supplémentaire, et qu'en plus elle est mariée avec une autre femme, ce qui en Russie est carrément un gros problème d'être lesbienne. Donc Britney, elle a été libérée. Elle a été libérée contre un homme, Victor Bout, qui était trafiquant, qui est trafiquant d'armes. Qu'il était en tout cas, avant qu'il soit arrêté aux États-Unis, il avait pris 25 ans, il en a fait 10. Donc c'est un échange de prisonniers à l'ancienne, prisonniers et prisonnières en l'occurrence. On a appris qu'elle allait bien, qu'elle était rentrée chez elle. Voilà, elle avait pris donc 9 ans hein, de prison quand même. Hein. C'était pas mal. Et puis, je vous en ai parlé la semaine dernière, je suis au regret de vous dire que cette bonne mauvaise nouvelle, on ne sait pas comment le dire, que Salah Hamouri est toujours en prison. Alors, bonne nouvelle, il n'a pas été expulsé de son propre pays. Mauvaise nouvelle, il est toujours en prison, puisque Israël n'arrive pas à se décider de quoi faire de Salah Hamouri. Ouais. Voilà. Je sais même pas quoi dire de plus.
Non.
Voilà.
En tout cas, la France, et le gouvernement français, le président français sont en dessous de tout.
Ouais, mais honte à Israël quand même.
Et aussi, bah, forcément, parce que le pauvre. Voilà. On fait une petite rubrique ni Dieu ni maître.
Ouais.
Avec deux infos. Une info qui n'a aucun intérêt et une info plus intéressante. Alors, la première info.
C'est sympa de nous proposer ouais. des infos sans intérêt.
Ouais, bah, c'est parce que j'avais envie de me moquer. On va parler de l'Église catholique, hein, qui, officiellement, lundi, s'est dotée d'un tribunal pénal canonique national. Française, l'Église catholique française. Alors, donc, une nouvelle juridiction qualifiée d'inédite. Donc, sa mission sera notamment de traiter les affaires d'agression sexuelle sur majeurs. Ainsi, donc, les évêques montrent une sorte d'image en disant, regardez, on va combattre hein, les violences sexuelles au sein de l'Église. Alors, c'était quand même issu d'une recommandation de la commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église, hein, qui avait sorti un rapport qui s'appelait le rapport CIAZ, c'est les initiales, l'acronyme de commission indépendante, tout ça, qui avait été remis l'année dernière et qui avait été un choc, hein, parce qu'on avait appris quand même que c'était l'horreur, hein, le nombre de personnes ayant subi directement des agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Donc le tribunal pourrait être saisi pour bah, par toute personne baptisée catholique, forcément, et devrait commencer à fonctionner en janvier prochain. Donc ils jugeront des affaires d'agression sexuelle sur majeurs, mais aussi d'autres choses, hein, d'abus de confiance, des abus spirituels, hein, je sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, et les délits financiers, il y a l'air d'avoir aussi des arnaques au sein de l'Église, enfin voilà. Les cas de pédocriminalité, donc les agressions sexuelles pédophiles, elles sont du ressort des tribunaux du Vatican. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, hein, il y avait des tribunaux au sein de l'Église catholique, mais c'était national. Et bon, là, ils ont voulu faire. C'était national, mais c'était géré par chaque diocèse, en fait. Donc il y en avait un dans chaque diocèse. Et ils estiment que c'est trop près. C'est-à-dire que c'est les mêmes évêques qui vont juger des gens qu'ils ont protégés avant. C'est ce qui est sous-entendu. Donc c'était pas bien ça, donc maintenant on le fait un gros truc national où comme ça c'est des évêques qui étaient pas en lien direct avec les personnes qui sont accusées. C'est ce qui se dit par derrière, hein, voilà. Alors l'info elle est présentée de manière positive par un peu tout le monde, et moi je me dis mais comment on peut présenter ça, un truc un tribunal officiel d'une religion comme un truc positif. Moi, je suis. Alors, je suis pas forcément défenseur de la démocratie représentative, hein, mais et de la République française. Mais dans une République laïque et dans une République tout court, à quel moment on délègue une fonction de tribunal à une religion? Ouais, c'est un truc complètement fou. Il y a une aberration dans le système. Ce qu'il faut, c'est que la justice française, la justice de l'État, qui est censée être la justice du peuple, alors on peut discuter parce que c'est pas vraiment ça, mais n'empêche que c'est cette justice-là qui, dans la démocratie représentative française, devrait juger les criminels religieux, chrétiens, catholiques, puisqu'on en parle des catholiques, mais tout le monde, et avec des temps de prescription rallongés pour les crimes sexuels, afin que les prêtres pédophiles ou les prêtres agresseurs tombent. À quel moment on pense que c'est important que ce soit des tribunaux religieux? Il y a une aberration complète. Donc il ne faut pas se réjouir de ça. On ne délègue pas la fonction de justice à une secte ou à une religion. Qui est une secte qui a réussi, on rappelle. Donc voilà. Alors, mais c'est pas le premier truc. Les religions sont assiégées sur des mensonges et des fake news. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête du 8 décembre, dites la fête des Lumières à Lyon. Et vous passez devant les édifices religieux et vous avez des trucs. Merci Marie. Pourquoi? Parce que l'Église catholique lyonnaise, depuis 170 ans ou voire plus, véhicule ce mensonge qui dit que Marie a sauvé la ville de Lyon de la peste. Mais c'est basé sur rien du tout, c'est une invention, tout le monde le sait, c'est ni une réalité ni quoi que ce soit. Alors ça s'est transformé en mythe, voilà, on peut dire que c'est un truc mythique, mais en fait, on ne devrait pas laisser des mensonges s'afficher dans l'espace public, et pourtant ils le font. Et je ne parle pas de textes homophobes, sexistes, qui existent toujours au sein de ces religions, de ces sectes, et dans lesquels la justice n'intervient pas. Parce que les sectes et les religions, encore plus, restent protégées vis-à-vis de la loi au nom de la liberté religieuse. D'ailleurs, c'est au nom de cette liberté religieuse que pendant des années, les agressions ont été tues. Parce que l'Église a essayé de les cacher, mais les gens en parlaient quand même. Et finalement, personne n'avait envie de sortir ces affaires-là dans le grand public parce qu'il ne fallait pas attaquer les religions, etc. Donc il y a un vrai tabou là-dessus et ce n'est pas un tribunal religieux qui va régler le tabou. Voilà. Et puis un petit mot en Afrique du Sud, où des croyants qui faisaient un truc religieux ont été mis à mal par la nature, donc peut-être par leur dieu, hein, ils prétendent que leur dieu est omniscient, omnipotent et tout ça. Enfin bon, il y avait donc 33 personnes a priori qui étaient dans un cours d'eau vers la capitale, une rivière très exactement, et ils faisaient des sortes d'ablutions, il y avait un baptême, des rituels de purification. C'est une église évangéliste. Il y a eu un orage, ils ont été emportés, il y a eu quand même 14 morts qui sont décédés pour avoir participé à une cérémonie religieuse de purification. Je ne sais pas quel va être leur comportement et leur changement de leurs idées, mais en tout cas leur dieu omnipotent et omniscient les a punis.
Alors écoute, dans cette revue 6 mois numéro 24, on trouve un reportage de Ilvi Nietzschki. Il y a trop de J pour moi et de K. Ouais. Alors je vais y arriver, je tiens à m'excuser auprès d'Ilvi. Nijio Kikjen, donc c'est photographe en Afrique du Sud, donc là on a une photographie qui va s'intéresser à la mixité de ce pays arc-en-ciel, rêvé par un certain nombre de militants pour les droits humains et de militantes pour les droits humains. Là, les photos, elles vont s'intéresser à, évidemment, des parties plus festives. Comment on peut se retrouver aussi à Johannesburg et faire la fête en mixité pas tant sociale, ethnique, effectivement. Et, il faut savoir que le Cap est une ville extrêmement plus raciste que Johannesburg, qui est beaucoup plus ouvert. Tout ça est intéressant dans cette photographie parce qu'elle montre aussi que, par exemple, dans certaines écoles qui étaient des écoles de l'élite sud-africaine, on a maintenant, grâce à un certain nombre de bourses, des élèves issus de la communauté noire qui ont pu aller dans ces écoles ont pu développer suffisamment de temps, hein, de connaissances dans ces écoles pour aller faire des études supérieures. Parce que le problème de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est ce que nous raconte Simoa, c'est que il n'y a pas d'éducation pour les Noirs dans ce pays. L'école publique, il y a 50 élèves des fois dans une classe. Ah, rendez-vous compte un peu. C'est une catastrophe. Il manque de moyens. Donc permettre à ces élèves noirs, et pas forcément tous pauvres, mais même de la classe moyenne, de pouvoir accéder à une éducation, pas forcément que dans l'élite, mais en tout cas dans une éducation, ça change une vie et ça peut permettre à cette communauté noire de pouvoir accéder à des postes différents en Afrique du Sud et donc de pouvoir enfin prendre la place d'une manière mixte dans ce pays qui était détenu et qui est toujours détenu, hein, l'économie par les Blancs. Donc voilà, tout passe par l'école. Il y a des gens qui se mobilisent pour créer des mini-écoles, hein, dans certains quartiers pauvres, où là, d'un seul coup, on va faire venir des enseignants, des instits qui vont se mobiliser. Faut quand même en avoir envie, hein, faut quand même être volontaire et bienveillant pour justement donner un autre enseignement et permettre à une nouvelle jeunesse sud-africaine d'enfin pouvoir accéder à des études secondaires et enfin avoir accès aussi à une économie différente au sein de la société sud-africaine. Donc voilà, c'est un chouette reportage au sein de cette revue 6 mois. Et puis on y retrouve, alors juste pour dire, c'est la thématique, hein, de ce numéro 24, c'est la révolution jeune. On y trouve un reportage photo de Dani Tritt sur les corps impatients, ça s'appelle. C'est des portraits d'adolescents transgenres. Je trouve que c'est des très beaux portraits parce qu'on y sent la liberté. On y sent parfois la joie et l'espoir, voilà, c'est-à-dire des jeunes qui, avec cette transition, se sentent bien dans leur identité. Et je trouve que c'est des chouettes photos, c'est des chouettes portraits d'Annie Tritt qui donnent de l'espoir, hein, sur ces enfants transgenres, donc c'est plutôt chouette. Et puis, on y trouve des photographies de Karim El Maktafi, hein, sur l'Italie et sur l'immigration, l'immigration qui traverse, hein, toute l'Europe avec plus ou moins de racisme, disons-le. Mais dans notre pays, comme on a un ministre d'extrême droite, M. Darmanin, c'est vrai que l'immigration, c'est un sujet qui est très intéressant avec lui. En tout cas, je vous invite à regarder, hein, ces photos qui s'appelle « Il était une fois l'Italie », ce reportage, sur les enfants d'immigrés qui vivent entre deux cultures dans un pays qui a besoin d'une immigration en Italie, puisqu'il y a un manque de main-d'œuvre extrêmement important. Il n'y a pas assez de travailleurs et de travailleuses. Et pourtant, on a aujourd'hui une politique d'extrême droite extrêmement présente en Italie. Donc c'est tout le paradoxe, hein, de ce pays qui a besoin de faire venir des travailleurs et des travailleuses, d'accueillir en ce moment des gens qui arrivent en plus sur ses côtes, mais n'en veut pas pour une partie de la population, alors qu'en même temps, l'économie italienne est en plein désarroi. Je vous rappelle que l'Italie, c'est un pays qui a longtemps immigré, hein, c'est-à-dire les gens allaient ailleurs, sont venus en France dans une certaine époque, et puis à un moment l'Italie a enfin réussi à se stabiliser économiquement, même si c'est encore pas le meilleur des pays d'Europe en termes économiques. On voit l'état des hôpitaux dans la fonction publique, par exemple. Bon, chez nous, vous allez venir bientôt.
C'est pas loin.
Mais concurrent. En tout cas, c'est un pays qui est dans plein paradoxe, et en France, ce paradoxe arrive aussi, puisqu'il paraît que maintenant il faudrait avoir une immigration choisie. Hein, c'est toujours ce terme. Donc il faudra avoir des quotas dans des pays, des métiers en tension. Ah, j'aime bien, moi, choisir en tension, tout ça. Ce qui amène monsieur Darmanin à tenir des discours, ma foi, très intéressants devant l'Assemblée, alors devant un débat sans vote, hein, sur le projet de réforme sur l'immigration. Mais monsieur Darmanin, notre bon ministre de l'Intérieur, a quand même réussi à citer Bainville, figure de l'Action française entre Maurras et la monarchie, qui ose citer à l'Assemblée nationale française Jacques Bainville, un ministre d'extrême droite. Je vais dire, on peut pas faire mieux quand même. Ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, quand même à la France insoumise, il y a quand même un peu des gens qui ont de l'éducation. Donc tout de suite, hein, il a été sifflé, il s'est fait rentrer dedans. On en attendait pas moins de l'extrême gauche quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a même réussi à fâcher la droite. Puisque en fait, c'est malin ce qu'il fait, Monsieur Darmanin. Il a toujours cette espèce de gymnastique, puisque là, il doit mener une nouvelle réforme qui amènerait donc à ce qu'on choisisse nos immigrés.
Ouais, en fait, il fait un grand écart entre le capitalisme pour plaire à ses amis patrons.
Exactement.
Et ses idées de raciste et d'extrême droite. Donc, il fait un grand écart.
Donc, à la fois, il met en avant Jacques Bainville pour dire que finalement, il y a historiquement une immigration en France. et que peut-être quand même on peut faire quelque chose avec tout ça. Donc c'est malin, hein, moi je trouve vraiment que c'est malin. Bon, du côté des Zemmouriens, de RN, on n'a même pas réussi à apprécier sereinement cette déclaration de Monsieur Darmanin, puisque finalement pour cette extrême droite zemmourienne et du RN, il en fait trop Monsieur Darmanin, parce qu'il veut quand même continuer à faire venir des gens. Rendez-vous compte, quand l'extrême droite tape sur l'extrême droite, c'est que vraiment on est à l'extrême droite, hein. Et même du côté de l'Action française, on n'a pas aimé. Parce que là aussi, on trouve que lui, il va justifier l'invasion migratoire, je cite.
Ah, l'invasion.
Voilà, donc tout ça pour dire que donc on a, sous la tutelle de Madame Borne, bien évidemment, des ministres de l'Intérieur et du Travail. Je vous rappelle que celui du Travail, on le connaît moins, il s'appelle Olivier Dussopt. Il faudra peut-être se souvenir un petit peu tout ça, comme de son nom, quoi. Qu'on nous prépare, donc on nous ficelle un truc où on pourra donc faire venir un certain nombre de personnes pour les renvoyer. Une fois qu'il n'y a plus,
plus de travail. Ouais, voilà.
Bon, il va falloir être très flexible, hein, vous qui venez travailler en France et qui venez de chez pas trop d'où. En tout cas, on rappelle quand même qu'il y a eu quelques papiers, hein, de retour ces derniers temps, que sur nos chantiers qui préparent les Jeux Olympiques de 2024, on a un certain nombre de travailleurs sans papiers qui ont fourni la main-d'œuvre pour monter nos futur édifice pour accueillir ces Jeux Olympiques, mais tout ça ne semble pas du tout scandaliser Monsieur Darmanin, comme de la manière il n'a pas du tout été scandalisé par cette attaque à Bordeaux. Vous avez peut-être entendu, c'était hier, puisque un groupe d'extrême droite, alors dans certains articles sur les médias, faites attention, on parle d'agitateurs, mais ça faut dire qu'ils ont repris le communiqué de presse de l'université de Bordeaux-Montaigne, mais on sent que quand même il y a des gens qui ont du mal à parler d'extrême droite, hein, quand même. Donc il y a un groupe d'extrême droite qui a voulu perturber à coup de barre de fer quand même, hein, une conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne à laquelle participaient deux députés de la France Insoumise. Donc on a Carlos Martins Belongo, dont vous avez certainement entendu parler, puisque il avait eu quelques soucis avec Grégoire de Fournasse, un député FN, hein, qui lui avait, il me semble, dit de rentrer chez lui, un truc comme
alors
ça.
Alors pas chez lui, de retourner, d'aller en Afrique.
Ouais, d'aller voir ailleurs, quoi. Voilà, et puis il y avait lui, Boyard aussi, que l'extrême droite n'aime pas trop non plus, hein, qui a eu quelques soucis ces derniers temps avec les représentants des chaînes Bolloré. Donc il paraît que ces deux députés ont dû être exfiltrés par la police. Bon, heureusement, il y avait un service d'ordre sur place qui a réussi à virer tout le monde. Bon, que je sache, je crois pas que des gens aient été arrêtés, interpellés.
Oh ben, en général, les policiers sont un peu gentils avec l'extrême droite.
Alors quand la France Insoumise a interpellé Monsieur Darmanin pour que ces groupes d'extrême droite soient dissous, a priori, lui, hein, enfin moi ce que j'ai lu un peu, c'est qu'il dit il y a la justice, il faut pas déposer plainte. Voilà. Du côté de l'université, on condamne, hein, les violences à l'encontre des libertés académiques et des élus de la République. Mais effectivement, on emploie dans ce communiqué le terme d'agitateur. Hein. La police est intervenue pour disperser les agitateurs. Franchement, quand t'as une barre de fer, toi, t'agites, en fait.
Ouais, c'est ça.
Enfin, je veux dire, je trouve que le terme est quand même extrêmement mal choisi. Il y a à côté de ça aussi un lieu avec du théâtre, hein, qui a été aussi attaqué, hein, par ce groupe d'extrême droite. Mais de partout en France, ça ne fait réagir jamais, hein, Monsieur Darmanin, puisque je vous rappelle, hein, que lundi, vous l'avez certainement lu, vu, entendu, que des militants de la France Insoumise ont été agressés lundi à Lyon.
Enfin, tabassés, ils distribuaient des tracts.
Voilà.
Ça doit être un crime pour l'extrême droite.
Exactement. Hein, alors effectivement, ils venaient... Elle venait, ces militants de la France Insoumise, dénoncer la violence des groupuscules d'extrême droite et se font tabasser par l'extrême droite. C'est bien, c'est une belle
démonstration.
Démonstration. Malheureusement, il y a quand même des gens, enfin, vous avez peut-être vu
des blessés, ouais.
Leur tête, hein, c'est pas chouette. Hein.
Ouais, et puis surtout, le maire de Lyon a réagi pour essayer de faire intervenir Darmanin. Darmanin botte en touche. Voilà, on touche pas à ces groupuscules, on en dit souvent de temps en temps, mais pas deux. Enfin voilà, il y a une complaisance qui reste très forte envers ces groupes d'extrême droite qui agressent, qui attaquent des librairies, enfin voilà, qui font tout ce que vous connaissez déjà, malheureusement.
Alors le 17 décembre à 14h30, il y aura une manifestation pour le retrait de la loi immigration de Monsieur Darmanin. C'est signé par tellement d'organisations politiques, syndicales, de lutte d'actes pour les droits humains que voilà, je vais pas vous en faire la liste. Voilà, ça sera place Bellecour le 17 décembre à 14h30 pour demander donc le retrait de cette loi pourrie.
C'est un samedi. Ouais. Le 17 décembre.
Ouais. Voilà. Que vous dire de plus ? Pas grand-chose d'autre.
Et t'avais pas autre chose là, parce qu'il nous reste un peu de temps.
Ouais, alors tout autre chose, parce que c'est vrai que je vous fais toujours un petit truc sur l'économie. Alors ça n'a rien à voir avec la ciboulette. C'est l'effet qui se coule. Si vous êtes un peu vieux ou un peu vieille, vous savez ce que c'est qu'un effet qui se coule. C'est donc suite à la crise énergétique, on apprend donc que certaines entreprises ferment carrément, arrêtent la production. Carrément. Et c'est le cas de Cofigeo. Cofigeo, comme ça, ça vous parle pas, mais c'est le groupe qui détient les marques William Sorin, Zapetti, Garbit, par exemple, Reclore aussi, bah, je ne vais pas tout vous les dire. Donc, on a appris que dès le 2 janvier, ça a été annoncé mardi, 4 des 8 usines en France vont s'arrêter. Pouf, paf, pouf. Ça sera celle de Cabnac en Aveyron, de Pouilly-sur-Serre dans l'Aisne, de Camaret-sur-Argue dans le Vaucluse et de Lagny dans Marne. Ça représente 80% de la production du groupe qui vont être totalement à l'arrêt. Là, l'idée, c'est de faire face aux coûts énergétiques, hein, j'ai appris ça, qui ont augmenté beaucoup trop hein, pour le groupe. C'est ce que le groupe explique dans son communiqué. Ça va représenter quand même 800 des 1200 salariés, si j'ai tout saisi. Qui vont se retrouver donc au chômage technique. Alors évidemment, Cofigeo va certainement pouvoir bénéficier de dispositifs d'aide de l'État. Enfin, va falloir quand même déconner. Ce chômage technique, il a été validé avec les syndicats sur place. Mais enfin, c'est quand même extrêmement inquiétant de voir qu'une entreprise agroalimentaire.
Oui, mais ils font cuire. Ouais. Donc ils ont besoin d'énergie. Ils doivent consommer énormément de gaz. Et effectivement, vu les cours du marché, il y a des entreprises qui peuvent pas. On pense aux verriers, par exemple, hein, qui sont obligés de s'arrêter.
Ouais.
Parce que l'essentiel du coût, c'est le gaz. Et on peut plus vendre un verre qui valait quelques euros, le vendre 25 euros. Hein, donc ils préfèrent attendre que les cours baissent pour relancer la production, ce qui se comprend hein, dans les enjeux, enfin vu les enjeux actuels sur le coût du notamment du gaz.
Juste aussi pour dire que alors j'aurais pu le faire dans l'autre sens, ça aurait été peut-être plus intelligent et plus logique dans ce déroulé de ce Canu Info. Mais Disclose a fait un papier sur les sous-traitants d'IKEA en Biélorussie. Pour dire que...
J'en ai parlé, tu sais, il n'y a pas longtemps.
Ouais, voilà. Et Medisclose, qui se retrouve aujourd'hui en difficulté dans un état pas du tout d'extrême droite. Hein. Mais c'est vrai, c'est pas du tout d'extrême droite. Quand des journalistes de Disclose et de Radio France sont convoqués par la DGSI après une enquête menée en 2018 pour s'intéresser à l'armée française. La question est donc, est-ce qu'il est encore possible d'enquêter sur l'armée française ? C'est ce que demande Disclose. Bah, a priori...
Ça a toujours été compliqué hein, d'enquêter sur l'armée française. Hein.
Donc c'est Geoffroy Livolsi de Disclose, Benoît Calomba et Jacques Monin de Radio France qui sont convoqués le mercredi 14 décembre par les policiers de la section des atteintes au secret de la défense nationale de la direction générale de la sécurité intérieure. Franchement, quand un État commence à convoquer les journalistes dans un pays, c'est que sa démocratie, elle pue. Mais ça aussi, ça ne doit pas beaucoup embêter M. Darmanin que sa démocratie, elle pue.
Non. Voilà, je crois qu'on a fini ce Canu Info. Ce 8 décembre, juste avant 20h.
Exactement.
On va pouvoir rentrer et essayer de traverser la foule.
Il n'y aura pas d'émission a priori derrière nous. On va vous laisser avec les bandes de continue. Vous aurez peut-être demain le droit à avoir un autre Canu Info. On l'espère, c'est toujours sympa quand il y a des équipes tous les jours. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Tu es d'accord avec moi ? Il a fait. Vous avez entendu. Voilà, bonne soirée musicale.
Bye bye.
Ciao.